Vous écoutez
RMC. RMC.
15h-18h.
Le Super Moscato Show. Vincent Moscato.
Il est 17h05. On est dans le Super Moscato Show. On est sur RMC comme tous les jours. The Flower from Cahors est avec nous. Et bien entendu, Denis Charvet. Bien entendu, nous sommes avec Pierre Autorien. Nous sommes avec l'ami de Zizou, le frère de Malone.
C'est quoi ce délire, Zizou, ce nouveau délire?
On va manger au panier. Ouais, vas-y, viens Zizou. Hop, ils allaient manger au panier.
N'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est devenu fou.
Il a envie de t'agresser.
Non, mais après, c'est rigolo, ça m'a fait rire.
J'ai envie de te taquiner, pas de t'agresser.
C'est gentil, Zizou.
Non, mais sincèrement, est-ce qu'il
est sympa? Mais oui, mais arrêtez.
Mais non, mais
attends, moi je l'ai connu, il venait d'arriver en équipe de France. Donc c'était un garçon qui a toujours été respectueux, discret, comme Zizou, quoi. Ouais. C'est Zizou. Après, derrière, il est devenu champion du monde, il a pris plus d'assurance, c'est devenu le taulier, c'est devenu un entraîneur.
Quand tu viens chez toi.
Mais moi je ne l'ai plus croisé depuis longtemps. Mais après, quand on se croise.
C'est pas ce qu'il dit, mais voilà,
quand tu croises Serge Blanco, toi par exemple, ben voilà, tu as joué avec lui.
Moi je te dis, pas moi Serge, depuis qu'il a pu la Talasso, je le côtoie plus, ça m'intéresse plus. Mais toi,
c'est des anciens coéquipiers quand on se croise, mais oui, c'est comme des anciens coéquipiers.
Oui, mais moi je dis pas tout le monde, Zizou,
mais je dis à personne, moi j'ai rien dit.
Autrement, t'en parlais pas, tu dis ouais, si la dernière fois, puis à ton anniversaire, je te le ferai venir.
Quand on était à Marseille, Vincent, te souviens quand on était à Marseille?
Quand on était à Marseille, Pierrot, il nous dit ouais, je vais vous le faire venir, qu'on l'attend toujours.
Merci. C'est dingue.
Il m'a promis qu'il le ferait pour moi, il a dit même avant.
Ouais, non, mais ça. Moi, je veux pas le type qui. Moi, mon ami, c'est tel et tout, quand t'aurais vu, quoi, au mariage, à ma fille, il disait à tout le monde, je connais Creuf aussi.
Creuf, mon frère.
Il disait, ah bon, Creuf, tout ça.
Alors là, je vais vous donner le programme. Attention, c'est incroyable ce qui va se passer ce soir sur RMC. C'est d'une densité exceptionnelle, Vincent. Un dispositif exceptionnel. Non. Débat sur Roger Federer tout de suite. Le GOAT, est-ce que c'est Federer? On va retracer sa carrière avec quelques archives fort sympathique que vous allez écouter dans un instant. 17h15, coup d'envoi de France-Pologne. C'est l'Euro de basket, c'est la demi-finale. Ah ouais, juste après le match, écoutez-moi bien, nous enregistrons un basket time en live avec toutes les réactions en direct et à chaud. Dès que c'est terminé, dans les 5 minutes, c'est en ligne sur rmcsport.fr.
Ils sont trop forts.
Les réactions,
c'est pas la peine, ça,
en quasi-direct, donc avec tous les joueurs de l'équipe de France sur rmcsport.fr. À 18h, Louis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, passera une heure en direct à répondre aux questions de Jérôme Rotten et de Jean-Louis Tour, et avec bien sûr
toute la soirée de direct avec
la deuxième demi-finale entre l'Allemagne et l'Espagne, avec le match de Ligue 1 entre Auxerre et Lorient qu'on vous a présenté tout à l'heure et qu'on ne ratera sous aucun prétexte.
Jusqu'à Auxerre-Lorient, t'étais bien. C'est le GOAT. C'est RMC, tout simplement. C'est RMC le GOAT ce soir, avec tout ce programme que tu nous balances.
Nous allons aller prendre l'ambiance à Berlin pour la demi-finale France-Pologne à l'Euro de basket, à 6 minutes du coup d'envoi, avec Arnaud Valadon et Stephen Brun. Salut les gars.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Alors j'ai fait durer un peu parce que j'ai vu que c'était les hymnes, pour pas vous embarrasser comme la dernière fois, puisqu'on est arrivé pile au moment des hymnes. Ça vient de se faire, la coupe est sur le parquet, j'ai l'impression.
Oui. Comme à tous les matchs, et présentations et ambiance, avantage Pologne, puisqu'il y a plus de Polonais que de Français, même si on a ramené le tambour, et c'est vrai que c'est le petit point négatif, l'ambiance et les supporters français, pourtant l'Allemagne c'est pas loin, mais sur le parquet, Stephen, ce sont bien les Bleus qui sont favoris face à la surprenante équipe polonaise.
Ouais, les Polonais qui ont surpris le monde du basket en sortant la Slovénie en quart de finale, les Français qui encore une fois partent favoris. On attend un match complet sur 40 minutes pour cette équipe de France. On attend surtout le réveil d'Evan Fournier, le capitaine et leader de cette équipe côté attaque, qui pour l'instant traverse un euro compliqué en termes d'adresse. Et je le sens bien faire péter un énorme match, mon ami Evan, ce soir.
Alors c'est pour 17h15 pour le coup d'envoi.
Mon ami Evan,
et
bon anniversaire, il va le faire venir aussi. J'en ai marre.
Si tu es sage, tu auras peut-être le droit d'intervenir dans notre prochain débat sur Roger Federer, et ensuite avec Marc Rosset qui sera notre invité.
C'est exceptionnel, Marc Rosset.
Voilà, allez,
juste avant de démarrer, c'est rarissime, je fais un petit clin d'œil à des collègues qui lancent un canard. C'est super pour les enfants, c'est un magazine de sport qui s'appelle À Fond, qui sort tous les deux mois, c'est 60 pages tous les deux mois. Donc le numéro 1 vient de sortir avec Julien Alaphilippe en une. Franchement, je l'ai feuilleté, c'est super. Si vous avez des gosses qui aimaient le sport, allez-y, abonnez-vous à À Fond.
Magnifique.
Tout de suite,
moi, je vais sortir un magazine.
Roger Federer est-il le meilleur?
Il est considéré pour la plupart des joueurs spécialistes de tennis comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps.
C'est comme ça du tennis. C'est l'un des héros de tous les jeunes qui jouent au tennis.
Je pense qu'elle est faute.
Ah. Elle touche, elle touche. Ah, c'est incroyable. Federer remporte l'Open d'Australie.
Federer, partout où il joue dans le monde, que ce soit en France, mais même ailleurs, il a le public pour lui.
Et il avait une telle aura, une telle emprise sur cet adversaire, que 99% du temps, il avait gagné ses matchs avant de rentrer sur le terrain.
Ça fait du bien d'être sur le podium en comme vainqueur pour une fois. Je ne sais pas comment je peux vous remercier, mais je crois le titre, j'espère, c'est un tout petit quelque chose.
La beauté du tennis, c'est une autre planète. Quand Federer joue, on a l'impression que le tennis, il est facile.
Le public retient son souffle. Federer qui s'applique, il trouve la zone de revers de Sinis, c'est un service gagnant. Et Federer qui triomphe, il remporte son 20e Grand Chelem. Incroyable Federer.
Roger Federer est-il le GOAT? Je vais pas vous faire un grand discours parce que la question est très simple. Je vous fais juste une mise en garde. C'est pas parce qu'aujourd'hui tous les hommages sont pour Federer parce qu'il vient d'annoncer sa retraite. Il faut pas faire de débat.
Ouais, mais là, mais c'est pas beau, Pierrot. Tu dis ça parce que c'est de lèche les deux là.
Non, mais je connais très bien l'histoire. Le jour où Nadal va prendre sa retraite,
oui, tu as raison. Il me faut honte aussi.
Nous accueillons celui qui a fait un peu la carrière de Roger, puisque vous avez entendu tous ses commentaires en direct. C'est Eric Salio. Salut, Eric.
Salut, le Moscato Show.
On va avoir du mal à résumer la carrière de Federer, 20 titres du Grand Chelem, 8 fois Wimbledon, un ratio hallucinant de 82% de victoires dans sa carrière sur plus de 1500 matchs. Une carrière immense donc, dont on va ressortir quelques moments très importants, Eric.
Oui, alors on peut situer l'acte de naissance de Roger Federer au 1er juillet 2001 à Wimbledon, lorsqu'il dégomme son idole de jeunesse Pete Sampras. Deux ans plus tard, il remporte le tournoi de ses rêves et craque au moment du speech. Écoutez.
Oh yeah, a lot of people came from Basel and home, and so nice, you know, to share this moment. And thanks to everybody. Oh, it's great!
Congratulations, Roger Federer!
Oui, congratulations. Oui, il y aura beaucoup d'autres larmes dans la carrière du Balois, mais c'est lui qui fait pleurer ses adversaires. Pendant plus de 10 ans, il enquille 16 autres chelems. Au milieu de cette domination, il décroche le titre qui manquait à sa collègue, Roland-Garros 2009. Un tour nerveusement épuisant après l'élimination surprise de Rafael Nadal par Söderling. L'Espagnol est l'un des cauchemars sur le circuit avec Novak Djokovic, qui le brise deux fois en finale de Wimbledon en 2014 et 2015. Mais les soucis physiques arrivent plus tard. Et lorsqu'il reprend la compétition à l'Open d'Australie 2017, personne ne le croit capable de rivaliser avec ses rivaux. Et pourtant, il a travaillé un nouveau revers qui fait des ravages. La finale face à Rafael Nadal est mémorable. Au cœur de la bagarre, un échange ahurissant fait perdre toute raison à Henri Lecomte et Frédéric Verdier qui sont aux commentaires sur Eurosport.
Du match, un point de géant.
Non mais vous pensez qu'on le reverra combien de fois dans les 50 prochaines années, ce point, hein?
Il a raison, Fred. Un an plus tard, il conserve son titre à Melbourne et empoche le chelem numéro 20. Il n'y aura jamais de 21e. Wimbledon 2019. Dans une ambiance hostile, Novak Djokovic sauve deux balles de match sur le center court. Roger Federer ne se remettra jamais vraiment de cette défaite. Son genou le fait souffrir. Opéré à deux reprises en 2020, il n'est plus le même. Son quart de finale à Wimbledon face à Hubert Hurkacz l'an passé est un calvaire. Depuis ma petite cabine, j'ai un mauvais pressentiment.
Roger Federer n'a jamais encaissé une bulle sur le gazon de Wimbledon. Le central est sous le choc. C'est le 1526e match de Federer et je crois qu'il n'y en aura plus beaucoup derrière. Et ça me fait drôle de dire ça.
Ouais, j'aurais préféré me tromper, mais Roger Federer était arrivé au bout de son fabuleux chemin. Son message d'audio d'adieu hier a dépassé les 13 millions de vues sur Instagram. Les hommages pleuvent. Djokovic s'est réveillé à l'instant. Et dans 10 jours à Londres, à l'occasion de la Lever Cup, le scénario est écrit d'avance. Pour sa dernière danse, il aura un partenaire de choix, Rafael Nadal, et il faudra probablement sortir les mouchoirs.
Merci Eric, et c'est vrai que non seulement il a été long à réagir, Djoko, mais il n'a rien dit. Hein. Il a dit, Roger, c'est difficile de vivre ça et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble, comme s'il ne souhaitait pas vraiment dire ce qu'il a sur le cœur. Alors,
Non, voilà. Il était au mariage de son frère, apparemment, non, ils ont peut-être bien fêté ça. Donc voilà,
soit c'est le cadet de ses soucis, soit il est très ému, les deux sont possibles.
Bon, Vincent, il n'est pas mort non plus, il peut attendre un jour pour réagir.
Il a réagi pour ne rien dire, c'est pour ça.
Tu dis quoi?
C'est pas vrai ce que tu dis. J'ai dit jusqu'au bout. Tu vas voir. Il parle de sa femme. Il parle de. Non, c'est pas vrai.
Alors, Vincent, là, il pense qu'on a un tyran Westminster. C'est ça. On a l'impression qu'on. Voilà, ce sont deux.
On débriefera lundi parce que l'on va parler de Federer. Est-ce que c'est le GOAT, oui ou non, Vincent?
C'est le GOAT.
Le plus grand de tous les temps. GOAT, ça veut dire greatest of all time.
Non, ben, le problème, c'est que t'es obligé de la façon de jouer, son élégance, c'est un art. Il a monté le tennis au niveau d'un art. C'est Modigliani, c'est Van Gogh, tout ça. C'est un mec qui mais après, quand même, il y a quand même le CV qui compte. Celui qui est en tête, c'est 22 Grand Chelem. C'est Nadal. Donc, bien sûr, qui fait partie des GOAT, mais c'est pas le GOAT. C'est pas le GOAT.
Non, c'est pas le GOAT. Toi, tu t'en remets au palmarès.
Non, c'est pas parce qu'il arrête. C'est pas parce qu'il arrête qu'on est obligé d'y faire des lipettes. Moi, je connais des grands. Je vous l'ai dit que je connaissais, j'étais ami avec Mike Tyson. Je l'avais dit, Pierrot. Bon,
il t'appelle Pierrot, il devait venir à l'anniversaire, c'est ça.
Écoute-moi, mais c'est pas. À un moment donné, on est en sport, on est en compétition, on n'est pas dans un concours artistique. Tu vois, il n'y a pas une note artistique. S'il y avait une note artistique, eh ben, il aurait 20 grands chelem plus une note à 18 sur 20 artistiques. Mais il n'y en a pas. Ce qui compte, c'est le CV. Bien sûr que c'est un des plus grands, mais le plus grand, pour l'instant, ça reste Nadal. C'est tout. Point. Parce que il y a 22 grands chelem. C'est tout. C'est tout. Quel est le type le plus sélectionné au foot? Ben, il est sélectionné parce qu'il a 150 sélections. Au rugby, parce qu'il a 110 ou 110 sélections.
Non, ça marche pas. Ça marche pas, justement.
Mais si, ça marche. Mais non, ça marche. Qu'est-ce qui restera dans l'histoire?
Je vais te donner le contre exemple.
Mais les écrits resteront. Et les écrits, ça sera 22 pour Nadal et 20 pour Federer.
L'exemple que tu as donné, il n'est pas beau, puisque Platini, il a quoi, 78? Combien de sélections? 80?
T'as raison, mais c'est lui qui a 150 sélections.
Etiana, de la génération 98, ils ont 120 sélections.
Mais en rugby, c'est Platini, ce sera toujours.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut pas. Vas-y, Denis, mais on ne peut pas résumer parce que les trois là, les extraterrestres, vont rester peut-être un long moment comme ça, loin devant les autres en plus. C'est quoi les autres? Eric est toujours avec nous?
Eric est toujours avec nous.
Le quatrième dans la hiérarchie du nombre de grands chelems, il est à combien derrière? Parce qu'il est à des années-lumière, non?
Ça doit être Sampras, non?
12 ou 13.
72 sélections, Platini. Je voudrais faire le tour d'abord de.
Pour dire que. Oui, parce qu'il a. Il n'y a pas que le palmarès, il n'y a pas que le nombre de grands chelems, il y a aussi ce qu'il a dégagé dans le jeu, puisque lui c'était le talent à l'état pur avec le beau jeu, et c'est souvent on s'en souvient souvent de ces joueurs là que ce soit dans le foot, dans le rugby, dans plein de sports comme ça, dans le golf, les mecs, c'est pas obligatoirement toujours rationnel avec les stats, quoi, je trouve, et tant mieux d'ailleurs.
Ouais, mais c'est pas rationnel, mais il y a des stats qui parlent d'elle-même. Regarde, Nadal, il l'a battu 24 fois sur 40 et Djokovic l'a battu 27 fois sur 50.
Eh ben.
Mais si je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas le GOAT. C'est que pour moi,
tu as vu ce qu'il vient de dire. Redonne-moi les stats, on rigole. Vas-y, dis-moi.
Djokovic l'a battu 27 fois sur 50 de confrontations.
Donc, 27, 23.
Voilà. Donc ça fait un a gagné 23 fois, l'autre 27 fois.
Mais 24 fois, l'autre c'est sur significant. 40. Mais non, mais oui, mais c'est
fini. Sur 40, tu as dit.
24 fois sur 40 pour Nadal.
Ça fait 16 et 24, c'est eu des années-lumière.
Ah mais d'accord, je croyais
que le mec, il y a 40 matchs, il a battu 38 fois, tu vois, ou 30.
On parle de Federer.
Je croyais que les stats étaient plus spectaculaires que ça quand tu me la vends.
Mais non, 24-7,
donc Nadal,
c'est énorme. Non mais Vincent, tout résumé. Moi, je vais dans le sens de Vincent, il a tout résumé. T'es obligé de prendre en compte les performances des uns et des autres. T'es obligé. Après. Évidemment que la seule différence, c'est que lui, il est unique. C'est-à-dire que on a tous des références quand on grandit enfant. On a juste tous des mecs qu'on regarde avec des yeux pleins d'admiration. Mais lui, il représente un idéal. C'est différent. Si tu dis quel est le meilleur joueur, celui que tu aimerais voir jouer, c'est lui. Donc, et lui, à la différence des autres, c'est qu'il a fait rêver tout le monde. Et que Nadal, il s'était partagé dans son public, c'est-à-dire il y a des anti-Nadal comme Djoko. Et lui, c'est le seul qui a fait rêver tout le monde parce qu'il avait un jeu unique. Mais je ne mets pas le GOAT. Le GOAT, pour moi.
On continue le débat, Eric. Tu vas pouvoir répondre à Denis et à Vincent. D'abord, le basket. Donc, 3 minutes dans ce match, dans cette demi-finale. France-Pologne, Arnaud Valadon et Stephen Brun.
Stephen est énervé à double titre en vous entendant et avec le score, même s'il y a 3 points d'avance pour les Bleus, 5-2, 3 minutes de jouer. Stephen, d'habitude ce 5 de départ marche très bien, lance très bien l'équipe de France, là c'est pas trop le cas, notamment en attaque.
Ouais, les Français ont débuté par 2 ballons perdus, on s'est dit ça y est, c'est reparti. Et puis le meilleur joueur de cette équipe de France depuis le début de la compétition, Gershon Yabusele, est arrivé. Un tir à 3 points, un drive, 5 points inscrits par l'intérieur du Real Madrid. Et là, troisième ballon perdu avec cette faute offensive de Rudy Gobert. Pour l'instant, les Français, fidèles à eux-mêmes. Fidèles à eux-mêmes, on mène 5-2 et on a perdu 3 ballons. Voilà.
Stephen, tu as un joker. C'est-à-dire là, soit on continue un peu sur le basket, soit tu nous donnes ton avis sur le débat.
Alors Vincent, Denis partent du principe que ce débat il s'arrête au titre du Grand Chelem. Moi j'ai envie de l'élargir un petit peu. Là vous allez me dire oui, enfin ça t'arrange. Federer a gagné 103 tournois, Djoko et Nadal sont quand même loin derrière. Le pourcentage de victoire de Federer est monstrueux. Après moi j'ai envie de prendre tout en compte en fait. La beauté du jeu, la ferveur populaire. Il n'y a pas photo en termes de ferveur populaire entre Federer, Nadal et Djoko. Après c'est un débat qui va tourner en rond. Moi j'ai plus d'affinité sur le jeu de Federer que je peux, parce que j'ai l'impression que tout était facile pour Federer. Quand tu regardes Nadal jouer, tu te dis ah il force, alors que Federer c'était la beauté au naturel. Alors bien sûr que quand Nadal prendra sa retraite, on aura aussi les débats comme ça et on pourra dire beaucoup de très belles choses sur Rafa Nadal. Quand Djoko prendra sa retraite, je sais pas si on trouvera des bonnes choses à dire. Pour répondre, le quatrième c'est Pete Sampras, je crois, avec 14 titres du Grand Chelem.
J'allais le dire.
Qu'on pensait à l'époque inatteignable ce chiffre de 14, et on s'est rendu compte que les trois ont tout détruit.
Mais bon, alors on va accueillir Ahmad au 32-16. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Eric?
Mais c'est pour ça, parce que quand tu parles de GOAT, il faut pas ou de meilleur ou de d'historique, puisqu'en réalité c'est ça. Il faut pas parler à l'instant T. En réalité, c'est celui qui va rester dans l'histoire, c'est ça. Et puisque tu me chambrais sur Cruyff tout à l'heure, Cruyff il a jamais été champion du monde, mais il avait un truc en plus dans le charisme, dans cette équipe des Pays-Bas qui était merveilleuse. C'était les Beatles du football. Et dans le subconscient, il est toujours là-haut, voilà. Et pourtant, il a jamais été champion du monde, donc c'est pour ça.
Alors qu'à un moment donné, Cruyff, Maradona, Pelé aussi, qui reste dans l'histoire.
Platini n'a pas gagné la Coupe.
Mais les trois sont restés dans l'histoire.
Mais davantage ceux qui sont champions du monde.
Après, t'as l'inverse avec Jordan qui n'a pas le plus gros palmarès et qui est unanimement reconnu comme le GOAT.
C'est pour ça qu'il faut pas se tenir aux chiffres. C'est peu bête, je trouve.
Parce qu'il a des chaussures.
Ahmad au 32-16. Bonjour Ahmad.
Ouais, salut les SMS. Vous allez bien?
Très bien.
Ouais, écoute,
Federer est-il le GOAT?
Ça fait plaisir de vous avoir parce que je vous écoute tout le temps en podcast. Et voilà, je suis heureux de vous avoir. Déjà, moi, je suis d'accord avec Eric.
Là, t'es en podcast ou t'es en live, là? Oui.
Non, là, je suis. tu commences, Vincent. Laisse-moi développer un peu mon idée parce que, vu que toi, t'es une pompe, hein, comme Denis aussi, hein, moi, je suis d'accord avec Eric. Donc, du coup, je vais développer rapidement. Juste, Pierrot, en fait, je voulais juste te dire que c'est moi, hein, d'accord? C'est l'auditeur de Basket Time, c'est moi.
Il y en a qu'un.
Sur ce mois, on est à plus de 100 000 téléchargements. Après,
vous pouvez
le faire.
Non, mais
j'ai un auditeur, en fait.
On a peut-être téléchargé 100 000 fois Basket Time, peut-être.
Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Non, je plaisante. Non, mais alors, juste pour en revenir sur la question du GOAT, pour moi, oui, effectivement, c'est Federer. Et juste par rapport déjà à la définition du mot, quand on dit GOAT, c'est greatest. Donc greatest, c'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui ou celui qui a le plus gros palmarès, c'est celui qui laisse la plus grande empreinte dans
le
sport.
C'est-à-dire le plus grand.
Exactement. Et quand on dit le plus grand, c'est pas forcément le palmarès, c'est aussi la trace qu'on laisse.
L'empreinte. J'aime bien ça. L'empreinte.
C'est ça. Raison. Exactement. Et pour moi, le meilleur.
Après ça, c'est toi qui définis.
Oui, voilà.
Pour moi, le meilleur tennisman de l'histoire, c'est Djokovic. D'accord, mais le plus grand, c'est Federer, dans le sens où il a amené le tennis dans une nouvelle dimension, à l'instar par exemple d'un Tiger Woods. D'accord, Tiger Woods, il n'a pas le plus grand palmarès au golf, mais pourtant pour moi c'est le plus grand golfeur.
Il n'a jamais rattrapé Nicklaus, et pourtant c'est lui qui va rester.
Mais exactement.
Pourquoi Djoko est le plus grand tennisman alors?
Alors, déjà l'image qu'il donne sur le court et en dehors du court, le jeu qu'il a, parce qu'on n'en verra pas d'autres des Federer, ou alors dans 35 ans, mais à ce moment-là, bon, Vincent, il sera déjà dans la boîte à gants, quoi.
Dans la boîte à gants, il n'y aura pas assez de place.
Non mais ce que je veux dire, c'est le jeu qu'il a apporté, l'image, les coups qu'il donne. Tapez-vous les highlights de Federer, c'est un truc de fou, quoi. Et d'ailleurs, juste, on disait déjà, quand Federer avait 10 grands chelems, alors qu'il était, il a même pas dépassé Sampras, on disait déjà de lui que c'était le plus grand.
Ah oui, mais là où t'es malhonnête, c'est qu'à l'époque, Nadal n'était pas encore Nadal et Djoko n'était pas encore Djoko.
Non, mais attends, Nadal avait déjà plusieurs Roland Garros, etc.
Je me souviens très bien de cette époque où on disait c'est le plus grand, mais il régnait seul, pratiquement. Oui, les autres ont pris une autre dimension depuis, quand même.
Oui, mais c'est également par rapport au jeu. C'est ça que je veux dire. C'est la trace qu'on laisse, en fait. La trace qu'on laisse. Et tu as donné le très bon exemple, Pierrot, avec Jordan. Eric avec Jordan. Jordan, il n'a pas de plus grand palmarès. Pourtant, on dit que c'est lui le plus grand. Et pourquoi? Parce que
Mohamed Ali,
exactement. Parce qu'en fait, ils engendrent des gens des enfants, et en fait, qui disent je me suis inspiré de lui. Et quand vous voyez les interviews de la nouvelle génération, 7 personnes environ sur 10, ils vous disent c'est Federer pour eux le plus grand. Donc, 7 pour moi. 10.
Heureusement qu'on est fort bien, parce qu'on a déjà perdu 7 ballons, Pierrot. Alors, ce qui me rassure, c'est que peut-être le fameux trou d'air en 3e, ils le font au début de match. Donc, peut-être qu'on va être tranquille par la suite.
Et Vincent Collet. Si on a une moyenne de 20 ballons perdus par match, c'est déjà 7 de fait, c'est bien.
Exactement.
Alors, on part sur 28.
Hein. Vincent Collet a ouvert son banc. Hein. Moustapha Fall, qui a très peu joué sur cette compétition, est déjà sur le terrain. Timothée Luwawu-Cabarrot aussi. Thomas Hurtel aussi. Il n'y a que Evan Fournier et Gershon Yabusele qui sont encore sur le terrain. Les deux garçons qui étaient déjà titulaires sur le coup d'envoi.
Donc, le score, Arnaud?
8-5 pour les Bleus, 3 minutes 39 encore à jouer dans le premier quart.
On revient tout de suite pour le basket dès la fin du match. Je vous rappelle le basket time en bonus track en direct de la zone mix de l'Euro. Vous aurez toutes les réactions en ligne 5 minutes après la fin du match sur rmc.fr. Dans un instant, le basket en direct et Marc Rosset, l'un des mentors de Roger Federer, sera en direct avec nous. À tout de suite.
15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 17h33, on est dans le Super Moscato Show, mon petit Pierrot. Dans 10 minutes,
le Kikadi, pour bien finir la semaine, puisqu'il y a un grand chelem en jeu en ce qui me concerne. On va aller vite, Vincent, parce que Marc Rosset nous attend d'avoir le temps et surtout le score à la fin du premier quart-temps. France-Pologne, Arnaud Valadon.
6 points d'avance pour les Bleus qui mènent 15-9 avec une grosse défense et un énorme Gershon Yabusele. La moitié des points français inscrits, 8 points.
Pas beaucoup quand même.
Allez, le cri du cœur. RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
On continue donc de parler de Roger Federer et de son incroyable carrière avec Marc Rosset, champion olympique en 92, vainqueur de Roland-Garros en double, ancien capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, qui a vu débarquer et éclore le phénomène en tant qu'ami et compatriote. Bonjour Marc.
Bonjour.
Salut Marc. On est tous un peu tristes de la retraite de Roger. Tu dois l'être particulièrement.
C'est un peu mitigé. Je suis triste parce que voilà, c'est un immense sportif qui met fin à sa carrière. Mais au niveau humain, je suis assez content pour lui parce qu'il va découvrir d'autres choses. Il va pouvoir consacrer un peu plus de temps à sa famille, avoir une vie un peu plus normale. Donc, je suis triste pour l'aspect sportif et assez heureux pour l'être humain.
Alors évidemment, tu l'as accompagné toute sa carrière. Une question très classique qu'on pose souvent à propos de ce genre de phénomène. La première fois que tu le vois jouer, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu pouvais imaginer la suite?
La première fois que je l'ai vu jouer, il s'entraînait au centre national à 60 km de Genève. Je l'ai fait venir pour s'entraîner avec moi la journée. Il devait avoir 16-17 ans. Et le moins qu'on puisse dire, que il était détendu le garçon. Donc ça m'a fait rire parce que aucune pression, elle s'est relâchée. Et puis après, il est venu 2-3 fois en Coupe Davis comme sparring partner. Puis voilà, j'ai vu un petit peu grandir, mais on pouvait pas imaginer que ça allait devenir ce champion-là. Forcément, il y avait du talent, mais après, derrière le talent, il y a beaucoup de travail aussi. Donc, la route était encore longue.
Alors, on dit souvent que techniquement, c'est presque le joueur parfait. À quel moment de sa carrière il a atteint sa plénitude, selon toi?
Un des matchs que j'ai le plus aimé, honnêtement, parce que c'était après un comeback, c'est la fois où il bat Rafael Nadal en Australie, après sa première blessure. Il y avait un niveau de jeu qui était assez incroyable. Le fait qu'il revienne de blessure, ça a rajouté. Mais je veux dire, c'est dur de mettre vraiment des matchs comme ça, d'en sortir un ou deux, parce qu'il nous a habitués à faire des coups assez incroyables, à réinventer le tennis quand il a commencé à faire ses retours, là, sabre, où il était à un mètre derrière la ligne de service pour surprendre l'adversaire. Donc c'est systématiquement, il a réussi à réinventer le tennis ces dernières années.
Vincent.
C'est un gros bosseur physiquement. Il a été chercher très loin des préparateurs physiques. Il a innové
parce que je veux dire, on se rend pas compte. C'est clair que si on voit Rafael Nadal ou Novak Djokovic, on regarde leur façon de jouer, puis on se dit forcément il y a du boulot derrière tout ça. Roger, il y a une telle facilité, un tel relâchement qu'on a l'impression que il prend la raquette et que tout paraît facile et qu'on peut faire la même chose. Mais pour avoir partagé le même préparateur physique que Roger, Pierre Paganini, il y a beaucoup de boulot derrière. Il a été très très peu blessé durant sa vie. Alors bien sûr, il y a eu cette blessure au genou qu'il n'a pas réussi à soigner. Mais autrement, je veux dire, c'est un joueur qui a été constamment là, qui a été très peu blessé, qui a joué énormément de... C'est 24 ans de carrière, 1500 matchs sur le circuit, quoi. Je veux dire,
Tu le sentais à la fin qu'il était... Qui tirait vraiment sur la couenne, qu'il pouvait pas passer cette blessure, que c'était fini, tu le sentais depuis un moment?
Il a essayé l'année passée, je veux dire, il est venu au tournoi de Genève, il a joué Roland Garros, ça s'est pas super bien passé, et il a joué ça pratiquement sur une jambe, il a retenté une opération. À 41 ans, honnêtement, une opération du genou, ça prend de toute façon une année, donc, on s'y attendait tous. J'aurais espéré que physiquement ça marche et qu'il puisse faire encore une saison régulière l'année prochaine pour juste avoir le plaisir de le voir encore jouer dans les quatre tournois du Grand Chelem. Mais disons que on parlait de peut-être jouer 12 mois au tennis supplémentaire. Mais de toute façon, à 41 ans, on savait que ça allait être compliqué.
Et alors justement, Marc, est-ce que tu sais si à cet âge-là, avec ce problème de genou, il s'est autant accroché uniquement par amour du tennis ou parce que il y avait ce record à aller chercher, ce record de nombre de grands chelems et qu'il a vu dépasser par
Rafael Nadal? Je crois pas que c'est une histoire de grands chelems. Je crois que c'est l'amour du jeu et parce que là il y a aussi des sportifs sur le plateau. Je veux dire, on a tous vécu le moment où il faut raccrocher. C'est pas un moment facile. Il y a jamais une belle sortie. Il y a jamais. C'est toujours compliqué de se dire j'arrête, c'est fini, parce que c'est une passion. Je veux dire, c'est une passion qui vous prend en trip. Vous avez 7-8 ans. Vous faites
c'est ta vie.
30 ans, c'est notre vie, quoi. Je veux dire, il reste pas compétiteur dans l'âme. On reste tous sportifs dans l'âme quand on l'a été une fois. Et de se dire, c'est fini, je peux plus, c'est jamais agréable. Je veux dire, il n'y a pas une belle sortie. C'est toujours n'importe quel sportif qui a vécu ça. Il vous dira, c'est une petite mort. Après, il faut l'accepter. Il faut retrouver d'autres défis, mais c'est jamais simple.
Marc, tu l'entraînais en Coupe Davis. T'étais son entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Roger Federer quand on est entraîneur de Coupe Davis?
Il faut avoir juste un bon jeu à jouer sur son smartphone et puis laisser jouer. Le changement de côté, il me dit t'as vu quand je fais ça, il fait ça. Puis après je mets la balle comme ça, il me la fait comme ça. Puis là, il faut avoir l'air sérieux. Puis peut-être vous passer à la télé.
C'est bon.
Et vous dire j'ai vu pour pas passer pour un idiot.
Tu fais croire que tu
veux. Vous dites t'as raison. Ouais, je t'ai vu. Ouais, t'as raison.
Et à la fin tu dis t'as bien fait de m'écouter.
Mais de temps en temps tu fais les gros yeux quoi pour montrer. Tu fais les gros yeux de temps en temps de manière de le gronder, tu vois.
Ouais, comme ça. Pour faire semblant que vous méritez le salaire que de la télé, quoi.
Merci beaucoup, Marc.
Merci, Marc. Merci.
Merci à vous.
Merci. Marc Rosset, donc l'ancien capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis. Retour au basket. France-Pologne, les Bleus ont passé la seconde, là, Arnaud Valadon et Steve Brun.
7 minutes 38 encore à jouer avant la mi-temps. 20-9 pour les Bleus qui n'encaissent pas un panier, Stephen. On dit souvent l'adage dans le basket et dans les sports co, la défense fait gagner des titres. Un petit peu le cas, en tout cas, les Bleus s'en sortent.
Ouais, défense exceptionnelle, on laisse pas leurs joueurs extérieurs qui peuvent prendre feu à 3 points, on les contient bien, on est bon au rebond et surtout les rotations apportent. Mustapha Fall a fait un très très bon passage, le garçon de 2m16, Rudy Gobert le fait souffler et il vient de signer son entrée par un énorme dunk. 22-9 pour les Français.
Parfait, on revient très vite, on continuera dessus bien sûr cette première mi-temps pendant le Kikadi et ensuite avec Jérôme Roten dans Roten sans flamme qui reçoit Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. À tout de suite.
RMC 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 17h44, on est dans le Super Moscato Show. Top fleu.
RMC. RMC. Le Kikadi du Super Moscato Show.
Allez, juste avant le Kikadi, retour à la demi-finale de basket France-Pologne. Arnaud Valadon et Stephen Brun.
5 minutes 23 avant la mi-temps, plus 9 pour les Bleus, 23-14. On continue de bien défendre, mais allez, on manque un petit peu de sérénité quand même.
Ouais, on manque de sérénité. Rudy Gobert qui vient de perdre un nouveau ballon, mais l'option prise par Vincent Collet de jouer avec nos deux Twin Towers, Gobert, Poirier, 2m16 de moyenne dans la raquette, est en train de faire très mal. Terry Tarpey est en train d'éteindre Mateusz Ponitka, pour l'instant le meilleur joueur polonais.
Plus 9 pour les Bleus, 5 minutes avant la mi-temps.
On revient très vite. Stéphane et Julien, vous affrontez pour un week-end de nuit dans un hôtel Cozy Places. Oui. Stéphane, tu choisis ton équipe. Vincent et Denis ou Eric et moi avec un point d'avance, sachant que je joue pour un grand chelem et qu'il n'y a pas encore eu la Golden Carotte.
Oui. Ah ben, va pour le grand chelem. Alors Eric et toi.
Allez, c'est parti. Et on commence par une charade. Prénom.
Yes, youpi.
Prénom et nom. Attention, prénom et nom. Hein. Mon premier est indulgent. Mon deuxième est un oiseau au plumage noir et au bec orangé. Mon tout n'est pas d'aujourd'hui.
Olivier Merle.
Ni de demain. Mon troisième n'est pas ni d'aujourd'hui ni de demain.
Mon troisième n'est pas d'aujourd'hui ni de demain.
Et mon tout va déclarer. Mon premier est indulgent. Ouais, mon deuxième est un oiseau au plumage noir et bec orangé. Mon troisième n'est pas d'aujourd'hui ni de demain.
C'est pas
le prénom. J'ai le nom, mais j'ai pas le prénom.
C'est Bruno Le Maire, non?
Non, pas du tout. Non, c'est un sportif. On a fait un débat sur lui cette semaine.
De quoi?
Hein? Et mon tout a déclaré presque qui coule me casse les couilles.
Ah, c'est comment il s'appelle, rugbyman?
Clément Ménadier. Mon premier est indulgent, Clément. Mon deuxième est un oiseau plumage noir et bec orangé, la Ménate. Et mon troisième n'est pas d'aujourd'hui ni de demain, il est d'hier. Clément Ménate d'hier.
On dit quoi, Pierrot?
Et on dit que c'est moi qui ai trouvé.
Ah, mais je t'ai pas envoyé dessus, dis-moi.
Non, mais là, c'est pas une
Merci. Non, mais t'as vu comment il veut récupérer. Là, il y a un point et demi pour moi depuis le moment. Là, tu vas faire le grand chelem à marquer un demi-point.
Qui fêtera son anniversaire demain?
C'est intéressant, ça. Michel Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez.
62 ans.
C'est fatigant.
Amoros.
Comment on fait pour savoir ça?
Mais il y a des indices qui viennent petit à petit.
Il a fait du sport.
Son père passe direct au cinquième indice. Son père faisait le même sport que lui.
Tamac, le petit Tamac. Comment c'est son prénom?
Émile Tamac. Champion de 62 ans.
Mais non,
oui, champion du monde 96.
Champion
du monde de 96, c'est à quoi ça?
96, il n'y a pas eu de football ni de rugby. Williams.
Williams. Ah oui, Damonil. Oui, bravo.
Oh là là.
C'est un point, c'est improbable quoi.
Pourquoi c'est
improbable? Comment il trouve Damonil?
On le souhaite à pas
Damonil, comment tu nous mets l'anniversaire de
Damonil? Williams, son père, Grahamil.
Et oui, c'est logique.
Non, mais comment tu nous mets l'anniversaire de Damonil là quand même?
Ouais,
comment tu le saches quand même?
Non, mais c'est improbable. Non, mais il y en a marre. Fais Michel Platini, fais n'importe qui, mais pas Damonil.
Mais c'est quand même l'anniversaire.
Damonil, ça déconne.
Un point sur le score, Arnaud Valadon.
4 minutes 17 avant la mi-temps, 25-14 pour les Bleus.
Allez, on repart sur le Kikadi. Auditeur. 3-0, Stéphane et Julien. Ouais. Kikadi, 99% des matchs, il les gagnait avant d'entrer sur le court.
Le compte Nadal.
C'est quelqu'un qui a défaut de se faire un nom. C'est quelqu'un qui a défaut de se faire un nom dans son sport à trois prénoms.
Paul-Henri Mathieu.
Bravo. Qui a répondu Paul-Henri Mathieu?
C'est pour nous, ça. Ça, c'est pour nous.
C'est Stéphane. Ça fait 4-0.
Oh.
BFM TV.
Bon, c'est pas le nom de Le nom, c'est déjà barré.
Qui a dit mon idole, c'est Bernard Pivot.
Mon idole, c'est Bernard Pivot.
Qui est Drucker.
Bunel.
Son remplaçant.
Trappenard.
Augustin Trappenard.
Bravo. Ah, ça, c'est tout, Pierrot. Alors, ça, écoute-moi, Pierrot. Ouais, ça, c'est toi. Il n'y a que toi qui pouvais le trouver.
La vérité, je lis jamais un bouquin, mais je regarde la grande librairie. C'est la vérité.
Ils ne m'ont jamais invité.
C'est bizarre ça. Ah ouais, non, mais ça c'est une anomalie.
5-0,
c'est une
anomalie. 45 secondes, je vous propose qu'on passe direct à la Golden ou pas la Golden, parce que de toute façon 5-0, oui, 40 secondes, bon, et il y a le basket à suivre.
On appelle Fred Pouillet.
Alors, je demande que tu vas prendre ce grand chelem.
Je demande à Fred Pouillet.
Pas ce qu'il y a la Golden là, je te le dis.
En régie.
Non, mais si ça c'est la pas Golden le plus beau de l'histoire, je le reconnais.
J'aime beaucoup vos livres, surtout le dernier, Les Perles de Belmondo, et c'est la Golden.
Ah, alors ça, tout de suite, c'est pas pareil.
Allez, Denis, Denis crème à Pierrot.
Et c'est une Golden charade.
Alors, fais le centre chez Denis quand même.
Ça déconne. C'est la Golden charade, il a dit.
Pas charade.
Depuis que son scooter est à la fourrière, Eric ne peut plus rouler mon premier. Mon deuxième est dévalué depuis le début de la guerre en Ukraine. Mon troisième est une bière d'abbaye belge. Depuis que son scooter est à la fourrière, Eric ne peut plus rouler mon deuxième, mon premier. Mon deuxième est dévalué depuis le début de la guerre en Ukraine. Mon troisième est une bière d'abbaye belge. Et Montou a battu Federer en huitième de finale au tournoi de Cincinnati en 2019.
Alcaraz.
Alcaraz.
Djokovic.
24 ans.
Rublev. Mais c'est moi qui l'ai dit.
C'est moi en premier.
C'est moi en premier.
C'est lui qui l'a dit.
Mais c'est lui qui l'a dit. C'est Eric Salio.
Non, vérifié.
Eric Salio, il joue pas.
Et c'est le grand chelem. Bravo.
C'est un très beau grand chelem.
En deux roues.
Énorme effusion.
C'est fréquent. Non mais là c'est une honte quand même.
C'est une honte, franchement. Non, je vais te dire, je suis pas très très fier. Hein.
Là, toute la semaine, tu as joué contre les pompes à vélo. Comment c'est possible?
Le basket France-Pologne, demi-finale. Ah pardon, notre partenaire est très heureux d'offrir deux nuits d'hôtel à Stéphane. Bravo Stéphane.
Le Kikadi sur RMC avec Cozy Places par Charme et Caractère. 160 hôtels pour découvrir la France sous toutes ses facettes. Cozy-places.com.
Le basket France-Pologne, Arnaud Valadon, Stephen Brun.
Le curseur Sérénité passe dans le vert, 27-14 pour les Bleus, 3 minutes 40 encore à jouer en première mi-temps, 27-16 désormais. On a une défense incroyable, Stephen.
Ouais, exceptionnel. Terry Tarpe a mis Mateusz Ponitka dans sa poche arrière. Andrew Albici a mis Edgy Slaughter dans son caleçon. Les deux grands Poirier, Gobert toujours sur le terrain qui font du mal aux Polonais qui n'arrivent pas à mettre de panier dans notre raquette parce qu'on est trop grand, on est trop athlétique. Même si là, on vient de perdre Pierrot, notre 11e balle de la première mi-temps.
Avec seulement 16 points encaissés en quasiment deux quarts-temps. On y revient bien sûr tout de suite après les paris sur RMC.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet, on va parier sur Lyon-PSG. Salut Christophe.
Salut Pierrot, bonsoir à tous.
Alors, quelle cote peux-tu nous conseiller sur ce match?
Alors déjà, je vous les donne. Paris est quand même bien, bien favori à Lyon.
Jean-Louis Tour et Jérôme Rotten, je suis désolé messieurs, bonjour.
Salut Pierrot.
Bonjour à tous.
Salut Vincent.
Je presse parce que le chrono défile.
On n'a même pas eu l'explication de la charade.
On se dépêche.
J'ai toujours pas compris moi.
Alors, Rouble et Lef pour Roublef, mais le prénom, je ne sais pas.
Ah, Andereau pour le prénom.
Lef, c'est la bière. La dernière,
Lef. Ah, oui.
Lef, c'est la bière, Pierrot.
Oui, ah, Lef, c'est la bière.
Oui, on a compris.
Christophe, Lyon, 1,60, PSG.
Le PSG, 4,90, le nul, 4,60, la victoire de Lyon. Les Parisiens sont pas super sereins. On l'a encore vu en Coupe d'Europe à Haïfa. Je pense qu'ils vont quand même s'imposer, mais peut-être par un but d'écart. C'est coté à 3,80. C'est quand même beaucoup plus sexy que cette cote à 1,60. Sinon, j'aime bien ce My Match. Le PSG, les deux équipes marquent, Mbappé buteur, c'est coté à 3,45.
Écoute, moi j'étais parti sur Paris et les deux marques.
2,45.
Je pense que ça, que les deux marques, c'est un coup sûr. Alors après, il y a une petite incertitude sur quel PSG on va voir dimanche, parce que ça, en ces temps-ci, c'est pas terrible. Mais
si Lyon, c'est celui de Lille, c'est moins terrible, ça peut dérouler. Hein.
Ouais. Donc j'aurais dit Paris, les deux marques, c'est combien?
2,65.
2,45. Ouais, c'est bon.
Moi, je fais rêver.
Moi, je pense que ça va être compliqué pour le PSG. Et on a fait les podcasts ce matin.
Ouais, donc, a dit nul.
Moi, je vois un N, donc Lyon ne perd pas avec les deux marques.
Et ça, c'est coté à 2,85. Et là, quand on voit la tête de Jean-Louis Tour, on se dit, c'est une catastrophe.
Je fais confiance à Jérôme.
Bah, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas d'accord.
Parce que je vois Paris gagner.
Sur les gros matchs comme ça, je pense que
Paris ne laisse pas passer. Ouais. Je pense que les stars seront là. Il ne fera pas tourner pour ce match-là.
Lyon, c'est Ajaccio.
Oui, d'accord. Exactement. Moi, j'aurais bien fait même Paris avec au moins deux buts d'écart.
Ah oui, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Non, mais c'est vraiment des peintres, Lyon.
Qui tranchent.
Lyon, c'est des peintres. Il n'y a pas d'international.
Mbappé, ça vous intéresse pas?
Non, mais Lyon, ça ne l'intéresse pas. En fait, ils vont jouer contre des peintres.
Campos nous a dit qu'ils ne joueraient pas les deux.
Ça va être très simple. Un
c'est le Red Star qui joue.
Voilà. Et Paris, les deux marques pour nous. Merci Christophe.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Invité exceptionnel tout de suite sur RMC.
Luis Campos.
C'est pour ça qu'il a dit Paris d'office, j'ai compris.
Non. Rien à voir. Luis Campos, le conseiller football du PSG, va nous donner sa première interview depuis qu'il est en poste au PSG. Il va tout nous dire sur le mercato, sur ses choix, Christophe Galtier sur le banc, sur l'actu tout. Et sur son projet pour le PSG. Vous pourrez l'interroger au 32-16. Vincent, si tu veux lui poser une question, 32-16, vous êtes la parole avec Luis Campos. Et l'autre événement, bien sûr, c'est le basket. On ne ratera rien de France-Pologne.
Ils ont gagné, là.
Ça se présente bien, effectivement.
À 2 minutes de la mi-temps, il y a plus 14 pour la France.
Bien sûr, Vincent, pas de problème.
Allez, à tout de suite pour Rotel sans flamme.
Ciao, les gars.
Lundi 15h.